Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Adoption hier, vendredi, à l'Assemblée nationale du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2021 et répartition des matières. En plus des projets des lois des finances 2022 et pourtant reddition des comptes de l'exercice 2020 qui sont des matières principales, plus de 60 autres matières sont programmées. Plus de 670 personnes touchées par une malnutrition sévère en Ituri en l'espace d'un mois dans la zone de santé des bambous dans les territoires de Djougou. Une situation due aux mauvaises conditions de vie de plus de 22 000 personnes qui ont fui les combats entre l'armée et les assaillants des Codeco dans la région minière des Kobou et Bambou. Commémoration du 60e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, mort dans un crash d'avion en Dola, en Rhodésie, actuelle Zambie. Nous recevons avant la fin de ce journal, Monsieur Henrik Rasbrand, ambassadeur de la Suède en RDC. Il est l'invité de votre journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Adoption hier, vendredi, à l'Assemblée nationale du projet de calendrier des travaux des sessions de la session ordinaire de septembre 2021 et répartition des matières. En plus du projet de loi des finances 2022 et pourtant reddition des comptes de l'exercice 2020 qui sont des matières principales, plus de 60 autres matières sont programmées. Notez que la proposition de loi Tchani Pouloulou qui divise la classe politique n'a pas été retenue alors que celle de Daniel Mbaou, pourtant révision du code de la famille, a bel et bien été retenu. Ce calendrier étant ouvert, toute proposition en attente des observations du gouvernement des matières doit passer par la plénière, a précisé le président des séances, Michel Kifindangoy.
Ce projet de calendrier contient plus d'une soixantaine de matières législatives et non législatives que l'Assemblée nationale programme d'examiner au cours de cette session. Parmi les matières politiques et non législatives, il y a l'entérinement des membres de la CENI, l'examen des rapports CNDH, CESAC et de la Cour des comptes sur l'exécution du budget 2020, ainsi que le contrôle parlementaire. Les matières législatives sont réparties en trois catégories. Toutes les matières sous examen en seconde lecture au Sénat, les arriérés de la session de mars ainsi que les nouvelles matières. Parmi les arriérés, la proposition de loi électorale ainsi que la loi portant abrogation du CENSA sont les unes des vingtaines matières à examiner. Quant aux nouvelles matières, le présent calendrier retient l'examen du budget 2022, de la loi Sakata contre le tribalisme ainsi que l'examen de la loi Mbaou portant révision du code de la famille. Notez que la proposition de loi Tchani et Singi Pouloulou sur la nationalité n'a pas été retenue.
Michel Kifindangoy sur la fréquence de la paix. Les autorités provinciales du Tanganyika viennent de lancer ce jeudi la campagne agricole au Tanganyika à Nyunzu. Le grand témoin de l'événement, le chef de la MONUSCO. L'activité a regroupé les partenaires humanitaires et plusieurs autres acteurs du développement. C'est le cas aussi de quatre ministres du gouvernement qui ont entouré les gouverneurs des provinces pour le lancement de la campagne. L'ONG World Relief exécute le projet avec le financement du gouvernement américain évalué à 4 millions de dollars américains. La MONUSCO en a facilité la logistique. François-Xavier Mubier revient de la zone. Voici son reportage.
C'est le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika qui a lancé en personne la campagne agricole 2020-2021 à Nyunzu. L'événement se déroulait au cours d'un meeting populaire qui a mobilisé une foule importante devant la tribune officielle de Nyunzu. Ce lancement touche toute la province du Tanganyika. Mais comment comprendre le choix de Nyunzu pour abriter les activités du lancement de la campagne agricole? Le gouverneur intérimaire, Samba Kayaba Lamoni, entendre la réponse.
Nyunzu est en train de reprendre des couleurs. Contrairement à ce que les gens pensent et contrairement à ce que les gens disent, Nyunzu est prêt à recevoir toute aide qui peut l'amener à un développement. À la date d'aujourd'hui, plus de 3/4% du territoire de Nyunzu est sécurisé.
Le projet rencontre l'adhésion de la population locale, composée essentiellement des paysans. C'est le cas de Clémentine Kaïté du quartier Mangala qui réclame la paix. Nous disons un grand merci, mais toutefois, nous réclamons la paix dans nos villages d'origine, afin de cultiver la terre sans assistance. L'ONG World Relief, comme d'autres acteurs humanitaires, appuie le projet. Le gouvernement américain a doté une assistance de 4 millions de dollars américains pour assurer la sécurité alimentaire qui touche 22 000 ménages dans la province du Tanganyika. Des retours de Nyunzu, François Diabemi, Radio Okapi.
Les lignes maritimes congolaises LMC s'installent dans la province du Sud Kivu à partir de la ville de Bukavu. La cérémonie du lancement officiel a été présidée ce jeudi 16 septembre par le gouverneur des provinces, Théo Ngwabidjekassi. Occasion pour cette entreprise de faire une présentation des services, de son mode de fonctionnement, mais aussi de son état des lieux en RDC. Rachel Kiesembangu pour les détails.
Ligne maritime congolaise est une entreprise du portefeuille de l'État. Elle est l'instrument privilégié de la République en matière de transport maritime, spécialement de produits stratégiques du pays, notamment les armes, le produit minier et autres produits d'importance capitale. Qu'est-ce que l'implantation de LMC représente pour la population du Sud Kivu? Lieva Mukunda, directeur d'exploitation LMC Sud-Est.
Il y a quand même satisfaction. Nous sommes venus nous installer pour renflouer tant soit peu la caisse du trésor en rapatriant un peu d'argent qui nous échappait, ça va renflouer le produit intérieur brut du pays.
L'exploitation des navires et les transports routiers restent les deux modes opératoires de cette entreprise, Lievin Mukunda.
Nous allons nous installer au Sud Kivu, mais nous allons opérer des navires dans les ports de transit. Nous pensons à Mombasa, nous pensons à Dar es Salaam, à Beira au Mozambique, à Durban en Afrique du Sud. Nous aurons des navires qu'on va exploiter de ce côté-là. Deux, nous aurons des camions remorques qui vont transporter les marchandises des opérateurs économiques de la province du Sud Kivu vers le port de transit et vice-versa.
Avec ligne maritime congolaise, une quantité de fret maritime pour les marchandises au bord des navires étrangers sera rétrocédée à l'État congolais. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Je le disais tout à l'heure dans les titres, à Ituri, plus de 670 cas de malnutrition sévère ont été enregistrés en l'espace des mois dans la zone de santé des bambous dans le territoire des Djougou. C'est le médecin chef des zones de cette entité qui l'a annoncé ce jeudi à Radio Capi. Selon lui, cette situation est due aux mauvaises conditions de vie des plus de 22 000 personnes qui ont fui les combats entre l'armée et les assaillants de la Codeco dans la région minière des Kobou et Bambou. Ce médecin plaide pour une assistance en vivres et médicaments à ces sinistrés afin de prévenir des cas de décès dus à la malnutrition. Reportage Martial Kizabiamungu.
Parmi ces cas de malnutrition aiguë, les sites de déplacés situés au centre des santé des bambous à Lucel a déjà comptabilisé 116 personnes malnutries composées essentiellement des enfants. Elles ont fui il y a un mois les combats entre l'armée et les assaillants de la Codeco à Kobou, Tchoudia, Sangui au centre des bambous. Selon les médecins chefs des zones de santé des bambous, Jean-Claude Ngabou, certains déplacés passent la nuit dans des salles de malades, dans les couloirs, sur la véranda et même les sols. Les conditions de vie restent à désirer, le docteur Jean-Claude Ngabou.
Ce que nous souhaitons également, c'est que l'armée soit en mesure de libérer la population.
Un des responsables de ces personnes déplacées qui a reculé anonymement soutient que ces familles veulent retourner dans leurs villages respectifs où elles ont abandonné de vivre dans les champs. Cependant, les FRDC refusent qu'elles rentrent dans leur milieu. Il ajoute que si cette situation persiste, il pourrait y avoir des cas de décès parmi ces personnes malnutries. L'armée de son côté souligne que la zone de Kobou et Bambou est encore insécurisée et qu'il est imprudent pour la population d'y retourner au risque d'être exposée aux exactions de cette milice. Bounia Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, grogne du staff médical affecté à l'hôpital mobile des Kanyaru Chinia. C'est dans le territoire des Niragongo. Ils réclament 3 mois de leur prime. Pourtant, selon eux, l'argent serait déjà décaissé par Kinshasa. Le comité de gestion de cet hôpital dit qu'aucune promesse n'a été faite à cette équipe. Cette grogne relance par ailleurs la question de fonctionnement et de la prise en charge des malades sinistrés de l'éruption du 22 mai dernier, bénéficiaire de cet ouvrage construit sous l'impulsion du président de la République, Denise Lukeso.
Ils sont environ 45 médecins et infirmiers affectés dans cet hôpital mobile qui réclament leur prime de 3 mois. Depuis l'inauguration de cette structure sanitaire en mai dernier, aucun rond n'a été versé dans leur compte, dit l'un d'entre eux qui a requis l'anonymat.
Nous venons de faire 3 mois, on n'est pas encore payé. Nos chefs nous disent qu'il faut patienter. Et nous demandons au président de la République qu'il puisse en tout cas nous aider parce que en tout cas nous souffrons beaucoup. Nous savons que nous sommes dans l'état des droits et qu'ils puissent nous donner même nos droits.
Contacté, le président du comité de gestion du dit hôpital déclare que l'équipe qui y est affectée est en délocalisation momentanée et qui continue de bénéficier des avantages de leur structure publique de provenance. Ces staffs n'ont aucun contrat avec l'hôpital mobile, dit le docteur Janvier Koubouya.
En termes de promesses, argent ou autre avantage, il n'y avait aucune promesse, aucune, sauf les transports lorsqu'il y a une prestation et la nourriture.
Rappelons que l'hôpital mobile de Kanyaroutchinia a été construit avec les financements propres du gouvernement congolais pour la prise en charge des sinistrés du volcan de Nyiragongo. Goma, Denis Luke sur Radio Kapi.
Nous restons encore au Nord Kivu, où dans les territoires des Massissi, les opérations militaires enclenchées par l'armée couvrent contre les positions du groupe armé Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain sont ce vendredi au cinquième jour. C'est notamment dans les localités des Lukweti et Kalungu, dans l'ouest du groupement Bachali Mokoto. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, la nuit de mercredi à hier jeudi, l'armée a récupéré la principale base de cette milice à Lukweti et au moins cinq combattants ont été neutralisés. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike affirme que le général autoproclamé Janvier Kalahiri, le leader de ces groupes, serait en fuite. Il le dit au micro de Bernardin Nyangui.
Comme vous le savez, dans le cas de l'état de siège, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, nous avons lancé des offensives contre le quartier général de Janvier Karaire et son groupe armé qui se trouvait à Lukweti, plus ou moins 55 km au nord-ouest de Masisi centre. Depuis hier dans la matinée, nous avons mené des combats violents et à l'heure où je vous parle, Janvier Karaire, qui se trouve être le commandant en chef du groupe armé APCLS, se trouve en fuite. Beaucoup de ces éléments ont été blessés, mais aussi quatre d'entre eux ont été sérieusement neutralisés et nous avons récupéré des armes. D'une manière très brève, retenez que à l'heure où nous vous parlons, les quartiers généraux de Janvier Karaire, Alukweti et Aishango sont passés sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo qui, à l'instant même où je vous parle, sont en train de consolider toutes ces positions et poursuivre l'ennemi dans son retranchement.
La coordination de la société civile du territoire de Beni condamne le phénomène Sangabalende dans le secteur de Rouenzori. Il s'agit de jeunes qui s'organisent en groupe pour aller récolter du cacao dans les plantations abandonnées par le ménage et qui ont déserté leur village à cause de l'insécurité. Pour la société civile, les autorités devraient prendre des mesures pour décourager cette pratique. Suivez les explications de Guylaine Kassassia.
Richard Kirimba, premier vice-président de la société civile du territoire de Beni, explique que le phénomène Sangabalende prend de plus en plus d'ampleur dans la région. Contraint par l'insécurité de s'enfuir, les cultivateurs abandonnent leur récolte de cacao dans les plantations. Des jeunes qui, selon les responsables de la société civile, travaillent avec des acheteurs clandestins qui écoulent la marchandise. À en croire la même source, pour empêcher les cultivateurs en déplacement revenir faire la récolte dans leurs champs, ce groupe de jeunes Sangabalende font régner la terreur dans les zones agricoles en se faisant passer pour des rebelles ZDF, ce qui occasionne quelquefois des affrontements entre ces jeunes et les vrais rebelles ZDF qui opèrent dans la zone. Nos efforts pour interroger le chef du secteur de Rouenzori à ce sujet n'ont pas abouti, mais l'administrateur militaire du territoire de Beni que nous avons eu au téléphone dit avoir été informé de cette pratique. Colonel Charles Omeunga dit avoir lancé des agents des services de renseignement dans les entités ciblées comme Boulongo, Mutuanga, Lume pour suivre la situation. Il assure que la loi sera appliquée sur tous ceux qui seront surpris en train de voler les récoltes des cultivateurs de cacao. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Il est 13h14 à Bakwansumba, au Kasaï oriental, où nous parlons de la pose, c'est jeudi, de la première pierre pour la construction d'un centre d'excellence à Chipuka, à plus ou moins 20 km de Mbujimayi sur la route nationale numéro 2. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, en séjour officiel en Mbujimayi, en présence du ministre d'État en charge du développement rural. D'après Antoinette Kipoulou, ce centre d'excellence, le premier dans la province et en RDC, va organiser 24 filières, dont notamment la menuiserie, l'hôtellerie et la nutrition. Explication Esther Ndalafina.
Ce centre d'excellence, la première du genre en province et en République démocratique du Congo, va organiser 24 filières parmi lesquelles la construction, la transformation des produits et l'agroalimentaire, pour ne citer que ça. Le ministre en charge de la formation professionnelle, Arts et Métiers, affirme que ce projet est initié par le gouvernement afin de doter les populations de compétences utiles en qualité et en quantité, afin qu'elles disposent du savoir-faire et du savoir-être pour le développement de la RDC, Antoinette Kipoulou.
C'est pour valoriser mon ministère comme un secteur clé dans l'émergence d'une main-d'œuvre qualifiée. Je ne cesserai de lancer l'appel aux parents à orienter leurs enfants vers la formation professionnelle et métier.
Merci.
Jeannette Longa, gouverneure de province intérimaire, souhaite offrir une meilleure formation.
Nous devons offrir une meilleure formation technique et professionnelle à notre jeunesse pour faire de notre pays un solide pôle d'attractivité et d'implantation technologique.
Signalons que les débuts et la durée des travaux de construction de ce centre d'excellence n'ont pas été révélés à la presse. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Voilà, nous passons à l'actualité internationale. En Iran, Amnesty International dénonce l'impunité face aux morts suspectés en prison. Dans un communiqué publié le 15 septembre, Amnesty International a dénoncé le climat d'impunité systémique en Iran face à la mort en détention d'au moins 70 personnes en 10 ans, malgré des informations indiquant que le nombre des décès d'Aung San Suu Kyi sera jugé en corruption. La junte au pouvoir en Birmanie va juger en octobre l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi pour corruption, a déclaré vendredi 17 septembre son avocat qui défend déjà sa cliente dans plusieurs affaires et qui pourrait la conduire en prison pendant des décennies, écrit AFP.
L'invité.
Notre invité, c'est Henrik Rasbrandt, ambassadeur de la Suède en RDC. Il s'exprime sur la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, mort dans un crash d'avion en Dola, en Rhodésie du Nord, actuelle Zambie, le 18 septembre 1961. Il effectuait ses voyages pour résoudre la crise post-indépendance en RDC. Et cette semaine, l'ambassade de Suède en RDC organise une série d'activités en son honneur, car il était de nationalité suédoise. L'ambassadeur Henrik Rasbrandt est interrogé par Alain Irung.
Monsieur l'ambassadeur, bonjour.
Bonjour.
Commencez par nous brosser le portrait de Dag Hammarskjöld. Qui était-il? Dans quelles circonstances est-il né? De quelle famille était-il?
Bon, monsieur Dag Hammarskjöld, il est né en juillet 1905. Il venait d'une famille fonctionnaire, politicien, mais aussi de l'autre côté, du côté de sa mère, d'écrivain. Alors, une famille intellectuelle, une famille avec beaucoup de tradition et qui était très très connu en Suède. Son père a été, lors de son enfance, pendant quelque temps aussi Premier ministre en Suède, mais pendant une grande partie de son enfance aussi gouverneur à Uppsala, qui est au nord de Stockholm. Et son père alors est gouverneur de cette province. Il aimait beaucoup lire, il aimait beaucoup les arts, il aimait beaucoup la nature, et aussi avec cette tradition aussi intellectuelle, je pense que c'est ça un peu qui l'a amené à des études à l'université, en économie, en droit et d'autres matières. Je pense qu'au début, il était peut-être plutôt focalisé, à une carrière peut-être plutôt académique. Mais il a trouvé aussi un intérêt à faire quelque chose pour son pays dans l'administration suédoise. C'est ça finalement qui a attiré alors son attention, et c'est là où il a passé la plupart de sa vie professionnelle avant de devenir secrétaire général en 1953.
Il arrive dans le contexte de la guerre froide, il arrive dans le contexte de la décolonisation pour la plupart des pays africains. Est-ce qu'on peut dire qu'il est arrivé au mauvais moment?
Je ne sais pas si c'était un mauvais moment. Peut-être en même temps, vu un peu tout le travail qu'il a fait pour l'organisation mondiale, c'était peut-être aussi un bon moment pour lui, pour l'organisation. Tout le travail, tous ses efforts, je ne suis pas sûr que ce soit un mauvais moment.
Il va passer exactement 8 ans, 5 mois et 8 jours comme secrétaire général de l'ONU, 60 ans après. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette personnalité?
Je pense, pour un peu le placer dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il y a différents aspects. Un aspect, c'est son engagement, son énergie, sa conviction personnelle de contribuer à un objectif commun, en l'occurrence la paix et la stabilité internationale. Peut-être si on regarde alors un peu un autre aspect, c'est peut-être justement ça, de toujours essayer de trouver des possibilités pour faire avancer un processus, pour faire avancer un dossier. C'est lui qui a amené un peu cette idée de mission maintien de la paix. Aussi, il était, en ce qui concerne par exemple ce qu'on appelle la diplomatie discrète ou diplomatie silencieuse, il a beaucoup fait aussi dans les coulisses, pas toujours publiques.
On ne peut pas parler des 60 ans de la commémoration de la disparition du secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, sans évoquer les circonstances de sa mort. On a parlé d'un crash d'avion. S'agissait-il d'un attentat, comme le prétendent certaines sources, ou il s'agissait d'un accident? 60 ans après, où est-ce qu'on en est avec les enquêtes sur sa mort?
Bon, exactement. Je sais qu'il y a eu différentes théories le long des années. Il y a toujours une enquête qui a été ouverte par l'Assemblée générale des Nations Unies qui est en cours. Je ne vais pas donner un avis sur les différentes théories parce que je pense que peut-être ça n'a pas été clarifié exactement ce qui s'est passé. Mais espérons que cette enquête, ces efforts de clarifier encore les circonstances, espérons que ça va nous amener encore des clarifications.
Il y a les élections qui arrivent en RDC en 2023. La question de l'état des droits qui occupe également la Suède. Quel serait votre conseil en tant que partenaire de la RDC pour que ces élections se passent de manière apaisée?
Pour l'instant, on est assez loin toujours des élections qui auront lieu dans 2 ans à peu près. Je pense en général, sans rentrer dans les détails, ce qui est bien sûr important, c'est qu'il y ait des élections libres, transparentes, où tout le monde qui a le droit de voter peut aussi participer, et bien sûr aussi avec un processus qui est transparent pour arriver à un résultat qui reflète ce processus et ces élections.
Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup à vous.
Et sachez que vous pouvez suivre l'intégralité de l'entretien d'Alain Irung avec l'ambassadeur de la Suède en RDC samedi et dimanche à 10h05 heure de Kinshasa dans le magazine Grande Interview. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal mis en onde par Mimi Kindou, coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba. Quant à moi, Pierrot et la Médie, je vous retrouve tout à l'heure à 13h heure de Kinshasa pour un bulletin d'information. Mais l'actualité, c'est sur www.radiocapi.net.